Seigneur. Je vous prie de vous rasseoir tout en demeurant dans cette attitude de recueillement, de révérence envers celui qui est présent au milieu de nous. C'est Dieu incomparable, qui fait tout ce qu'il veut. C'est Dieu pour qui rien n'est impossible. Nous venons de le chanter, je voudrais maintenant donner l'occasion à chacun de nous de méditer un temps soit peu sur ces paroles, les paroles de ce chant, ce Dieu incomparable. Ce Dieu qui est capable de tout faire. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous venons de le chanter. Et ta parole le proclame solennellement. Tu es et tu restes incomparable. Seigneur, ce matin, tu nous invites à ta table pour nous partager ce pain de vie qui est ta parole, pour nous partager cette nourriture dont notre âme a besoin, la seule, Seigneur, qui puisse nourrir véritablement tout notre être, l'homme intérieur qui est appelé à se renouveler à ton image et à ta ressemblance. Ce matin, Seigneur, nous te prions, ô Dieu, de nous parler dans la puissance de ton Saint-Esprit, que ta prédication ce matin, que ta parole, Seigneur, ne se fonde pas, ô Dieu, sur des techniques de persuasion, quelles qu'elles soient, mais plutôt sur une démonstration d'esprit et de puissance. Dépose cette parole sur nos cœurs. Communique-nous la vie au travers de ta parole. Bénis ton serviteur, Seigneur. Fais de lui simplement un canal au travers duquel tu vas répandre la vie sur ton peuple. Merci, Maître, pour tout. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à être dans de bonnes dispositions de cœur. Nous voulons que cette parole soit pertinente, qu'elle nous prenne là où nous sommes, Seigneur, et qu'elle nous amène là où tu es. Alléluia. Afin de recevoir ce que tu as préparé pour chacun de nous. Dépose-la dans notre esprit. Dépose-la dans notre âme. Dépose-la dans notre cœur. Que cette parole affine, Seigneur, et sensibilise notre conscience. Merci Jésus. Parle-nous dans le nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Puisque la parole de Dieu est le pain de vie dont nous avons tous besoin, eh bien, j'aimerais vous souhaiter un très bon appétit. Gloire à Dieu. Nous aspirons tous à expérimenter la victoire dans notre vie de tous les jours. Expérimenter la victoire face aux problèmes, face aux différentes adversités, face aux différents obstacles que nous pouvons rencontrer dans notre marche vers l'éternité, eh bien, vivre ces choses-là est une aspiration tout à fait légitime. Nous sommes nés dans ce monde pour être vainqueurs. Alléluia. Dieu nous a sauvés pour que nous soyons des vainqueurs. C'est pourquoi il ordonne par sa parole que nous dominions parmi nos ennemis. Et dominer parmi ses ennemis veut dire avoir de l'ascendance sur ses ennemis, c'est-à-dire avoir la victoire. Je voudrais ce matin parler du comment expérimenter la victoire, après laquelle nous aspirons tous, quel que soit le domaine de notre vie, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans le domaine familial ou conjugal, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans nos rapports mutuels, que ce soit face à la maladie, peu importe, nous voulons tous expérimenter des victoires. Alléluia. Et croyez-moi, cela est possible, car celui que nous venons rencontrer dimanche après dimanche est un Dieu qui ne change point, pour qui rien n'est impossible. Alors, le texte qui va nous servir de méditation par rapport à ce thème est un texte tiré du livre des Psaumes, le psaume 114. Nous allons lire le 8 versets qui constitue ce psaume. Psaume 114, les 8 premiers versets, d'ailleurs il n'y en a que 8. Nous lisons, « Quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob sortit du milieu d'un peuple barbare, Juda devint son sanctuaire, Israël fut son domaine. La mer le vit et s'enfuit, le Jourdain retourna en arrière, les montagnes bondirent comme des béliers et les collines comme des agneaux. Qu'as-tu, mer, pour t'enfuir, Jourdain, pour retourner en arrière? Qu'avez-vous, montagne, pour bondir comme des béliers, et vous, collines, comme des agneaux? Tremble devant le Seigneur, ô terre, devant le Dieu de Jacob, qui change le rocher en étang d'eau et le granit en source d'eau. Amen. Gloire au Seigneur. Un texte merveilleux. Alléluia. Gloire au Seigneur. Depuis la semaine dernière, le monde entier est en effervescence à cause de ce qui se passe au Brésil, oui ou non? J'espère qu'il y en a qui sèchent les cultes pour aller suivre les matchs de la Coupe du Monde. Je l'espère que ce n'est pas votre cas. Eh bien, la Coupe du Monde au Brésil, qui rassemble différentes nations, des équipes venant de toutes les nations, mais enfin des équipes qui se sont qualifiées, et toutes ces équipes présentes dans cette compétition sont là non pas par aventure, non pas pour faire de la figuration, mais toutes ces équipes sont toutes parties avec un seul désir, qui est donc celui de gagner, oui ou non. Même les pays d'Afrique, vous pensez qu'elles sont parties simplement comme ça en touriste? Pas du tout. Et pour permettre à toutes ces équipes de pouvoir gagner la Coupe du Monde, eh bien, ces pays qualifiés ont fait appel à leurs meilleurs joueurs, ils ont fait appel aux meilleurs entraîneurs du monde, et pour pouvoir encadrer leurs équipes afin de les amener jusqu'à la victoire finale. Et ces entraîneurs, eh bien, font tout, ils sont en train de tout faire, pour encadrer leurs joueurs, non seulement sur le terrain, mais aussi en dehors du terrain. Ces entraîneurs font tout pour trouver des stratégies pour pouvoir contrer l'ennemi et amener leurs équipes à remporter la victoire. Gloire au Seigneur. Élaborer des stratégies, trouver les moyens de pouvoir comment remporter la victoire, compter sur le collectif ou sur les différentes individualités. Eh bien, chaque entraîneur fait tout. Il motive ses troupes, alléluia. Amen. Il le fait monter sur le terrain, non pas pour simplement courir dans tous les sens, mais plutôt pour jouer véritablement au foot, afin de remporter la victoire. C'est ainsi que ces équipes-là espèrent, chacune du moins, à part celles qui sont déjà éliminées d'avance, chacune espère arriver jusqu'en finale, et jusqu'à remporter donc la victoire. Mais il y a des facteurs, il y a des éléments que ni les entraîneurs, ni les joueurs, quelle que soit leur capacité, quel que soit leur talent, il y a des éléments, des facteurs sur lesquels ils n'ont aucun contrôle. Et qui fait que ces entraîneurs, ces joueurs, malgré ce qu'ils sont, eh bien, ils n'ont aucune certitude absolue qu'ils remporteraient la Coupe du Monde. Parmi ces éléments, il y a les erreurs arbitrales. Il peut se faire que ce jour-là, l'arbitre a eu des insomnies. Ah, ce sont des hommes comme nous, non? Il peut se faire, alors qu'il est là-bas au Brésil, tout d'un coup il reçoit un coup de fil de sa femme qui menace le divorce. Ah. Et ceci le déstabilise juste la veille d'un match. Et il monte sur le terrain, ben, c'est un homme, vous voyez, avec ses états d'âme. Et il peut commettre des erreurs qui peuvent s'avérer fatales pour les équipes sur le terrain. Ça peut être aussi un carton rouge. Il n'y a aucun joueur qui monte sur le terrain en disant, bon, je monte pour recevoir un carton rouge, pour connaître l'exclusion. Mais, par manque d'attention, à cause de la fatigue, ou je ne sais quoi, tout d'un coup, hop, carton rouge. Et les autres se retrouvent à 10 ou à 9, et finissent donc par perdre. Donc, vous voyez, ces équipes sont parties, mais il n'y a aucune d'elles qui a la certitude absolue qu'elle ramènerait la Coupe du Monde dans son pays. Mais avec Dieu, alléluia, avec Dieu, nous avons la certitude absolue que lorsque nous nous engageons dans une guerre, l'issue est connue d'avance. Lorsque nous nous engageons dans une bataille, eh bien, la victoire est de notre côté. Car celui qui est avec nous, celui qui est allé nous chercher dans notre Égypte, eh bien, celui-là a vaincu à la croix pour nous, et il dispose favorablement à notre égard sa victoire, afin que cette victoire devienne notre victoire. Il y a donc moyen, avec ce Dieu-là, et ce, peu importe le contexte, peu importe la nature des obstacles, peu importe l'endroit où on se trouve, peu importe l'équipe qui est en face, avec lui, eh bien, la victoire nous est assurée. Amen. Voyez-vous, mes amis, expérimenter la victoire, marcher sur les différents obstacles, aller de victoire en victoire, comme Israël l'a expérimenté, eh bien, cela est possible. Et cela est à la portée de tout enfant de Dieu. Ce n'est pas, il ne faut pas être un chrétien sud-coréen pour avoir accès à cette victoire. Non, mes amis. Dieu n'a que faire de la couleur de notre peau. Dieu n'a que faire de la forme de nos yeux, qu'ils soient bridés ou pas. Dieu n'a que faire de la couleur de nos cheveux, si nous en avons. Dieu n'a que faire, mes amis, que nous soyons blancs, noirs, jaunes ou verts. Mais ce qui est important, c'est que nous puissions connaître véritablement ce que nous devons faire pour que cette victoire puisse devenir une réalité. Et c'est ce qu'Israël a expérimenté. Alléluia. Le texte que nous venons de lire, c'est-à-dire le texte de ce psaume 114, est une description poétique, évidemment. L'auteur recourt à l'hyperbole, il parle des montagnes qui sautent, qui bondissent, etc. C'est donc une description poétique des miracles, des prodiges qu'Israël a vécu depuis sa sortie d'Égypte jusqu'à ce qu'il arrive dans la terre promise. Gloire à Dieu. Le Seigneur les avait délivrés de l'esclavage, de la servitude des Égyptiens. Il les avait délivrés de l'oppression et du joug terrible des pharaons. Et dans ce texte, eh bien, il y a une allusion, évidemment très brève, puisque le Seigneur a fait plus que leur faire traverser la mer Rouge. Le Seigneur a fait plus que faire sortir de l'eau d'un rocher. Le Seigneur a fait plus que leur envoyer des cailles. Tout leur parcours, toute leur pérégrination à travers le désert, eh bien, sont donc jalonnés, sont jonchés par toutes sortes de miracles. Mais ici, nous avons donc une allusion, entre autres au passage de la mer Rouge. Ça a été aussi là un miracle extraordinaire. Il y a aussi le passage du Jourdain. Là aussi, les eaux s'étaient retirées, permettant à Israël de traverser et de passer de l'autre côté du Jourdain. Israël a été délivré de la maison d'Égypte, et plus tard, Judas, esclave à Babylone, lui aussi sera délivré d'un peuple barbare. Je vous signale en passant que ce terme, au départ, n'a pas de connotation péjorative. Aujourd'hui, quand on traite quelqu'un de barbare, vous savez de quoi Il est question, oui ou non? Est-ce qu'on veut dire que ça, ce sont des gens bien, bien réglo? Non. Mais à l'époque, ça n'avait pas cette connotation négative. Pour les Hébreux, ceux qui ne comprenaient et ne parlent pas leur langue, c'était des barbares, ils bredouillaient. D'ailleurs, les Grecs utiliseront le même terme, ce même qualificatif, pour désigner les peuples et les individus qui ignoraient leur parler. Donc, ce n'est pas qu'on insulte les gens, on les traite des barbares. Hein. Donc, voilà, ils ne parlent pas la langue d'Israël. Eh bien, quand Juda est sorti, quand Israël a été délivré, eh bien, la parole de Dieu nous dit que Juda, qu'Israël est devenu le sanctuaire de Dieu. Il est devenu son domaine, sa propriété personnelle, il est devenu son bien particulier. Amen. Nous voyons donc, mes amis, la raison principale pour laquelle le Seigneur avait délivré Israël de l'Égypte, la raison principale pour laquelle il avait fait partir Juda du pays de Babylone pour le ramener sur la terre qu'il leur avait promise, la raison principale, c'est que ce peuple devienne d'abord et avant tout le sanctuaire vivant du Dieu vivant. Qu'il devienne un domaine qui lui appartienne. Qu'il devienne un bien particulier pour lui. Gloire à Dieu. D'ailleurs, dans Exode chapitre 19, verset 14, le Seigneur le dit, s'adressant à son peuple, il lui dit ceci. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte. Je vous ai porté sur des ailes d'aigle pour vous faire venir jusqu'à moi. Donc, l'objectif ultime, le but principal de ce que Dieu a fait, c'est-à-dire de la délivrance, ce n'était pas simplement de faire goûter à Israël la liberté d'être un peuple libre, un peuple souverain, un peuple qui se prend en charge, un peuple qui soit fier d'être un peuple à part entière, qui gère son destin comme il pouvait l'entendre. Évidemment, tous ces buts subordonnés étaient là, mais la raison principale, c'était pour qu'Israël devienne son sanctuaire, pour qu'Israël devienne son domaine, devienne sa propriété, son sanctuaire. C'était pour que ce peuple devienne une nation sainte, c'est-à-dire une nation mise à part, séparée du reste du monde et consacrée à Dieu. C'était pour qu'il devienne un royaume des sacrificateurs, des hommes et des femmes qui servent Dieu, celui qui les avait délivrés, celui qui les avait rachetés. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et en devenant, écoutez-moi bien, en devenant le sanctuaire du Dieu vivant, en devenant la propriété personnelle de Dieu, eh bien, rien n'a résisté à Israël. En d'autres mots, les choses qu'ils ont expérimentées en aval, les différents miracles, les différentes merveilles qu'ils ont expérimentées, la victoire qu'ils ont eue en aval, a été la conséquence en amont d'avoir été, d'être devenu le sanctuaire du Dieu vivant. Alléluia. C'est donc cet état qui leur a donné la victoire sur tout, que ce soit sur les éléments naturels, que ce soit sur leurs ennemis, eh bien le fait qu'ils soient devenus domaine de Dieu a eu pour conséquence évidente que ce peuple triomphe en aval, remporte de victoire. Et aille de gloire en gloire. Puisqu'ils sont devenus le sanctuaire du Dieu vivant, eh bien, quand ils sont arrivés face à la mer rouge, ils se sont tenus devant elle. Moïse n'a eu qu'à lever son bâton et à frapper pour que le miracle s'accomplisse. Le miracle n'était pas dans le bâton, mais le psaume 114 nous donne le secret. Le psaume 114 nous révèle pourquoi tout cela, tous ces miracles, que ce soit le passage de la mer Rouge, que ce soit l'écaille qui leur envoyait, que ce soit de l'eau qui a jailli du rocher,
que ce soit les eaux du Jourdain qui se sont séparées, tout cela, mes amis, a été le corollaire, la conséquence évidente d'être devenu le sanctuaire du Dieu vivant. Désormais, il est à leur côté. Et par conséquent, désormais, la victoire est leur partage. Gloire à Dieu. En devenant le lieu très saint de Dieu, ici-bas, les descendants de Jacob ont expérimenté des merveilles et des prodiges de manière extraordinaire. Gloire à Dieu. Lorsqu'Israël est devenu réellement le sanctuaire de Dieu, il est devenu véritablement son domaine, eh bien Dieu est devenu, par voie de conséquence, sa force. Alléluia. Sa force et sa force seule. Parce que ce Dieu est désormais leur force, alors il n'y a rien qui puisse leur résister. Il n'y a rien, mes amis, qui puisse se dresser devant eux pour leur empêcher d'avancer vers l'accomplissement de la promesse qu'il leur avait faite. Écoutez d'ailleurs, c'est que le psaume 62 nous dit, au verset 12, « Dieu a parlé une fois, deux fois j'ai entendu ceci, ce que la force est à Dieu. » Mes amis, la force qui a fait que le zoo de la mer Rouge s'ouvre, la force qui a fait trembler la montagne d'Horeb après que Dieu soit descendu, tout cela, mes amis, est la conséquence du fait qu'Israël était devenu le sanctuaire du Dieu vivant. Alléluia. Et pour permettre à Israël d'expérimenter la réalité et de demeurer dans cette réalité, d'être le sanctuaire de Dieu, d'être le domaine de Dieu, le Seigneur va leur donner le décalogue, les 10 paroles qui constituent la loi morale. Et puis ensuite, il va leur donner d'autres lois cérémonielles, d'autres lois civiles, etc. Le but de tout cela, ce n'était pas, mes amis, de mettre sur Israël un joug en disant « tu dois faire ceci, tu dois faire cela ». Non ! Le but maintenant, à partir de cette loi, était de permettre à Israël de demeurer dans l'alliance, de vivre dans cette parole et par conséquent de continuer à être le sanctuaire du Dieu vivant. Car en demeurant le sanctuaire, en continuant à avoir ce statut-là du domaine de Dieu, eh bien ça leur assurait la victoire sur tout. Quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Juda sortit du milieu d'un peuple barbare, la Bible nous dit, eh bien, qu'Israël devint son sanctuaire et Juda son domaine. Gloire à Dieu. Quelle révélation sur, mes amis, la manière dont le peuple de Dieu a expérimenté la victoire sur leurs ennemis, la victoire sur différents obstacles. Israël n'avait désormais qu'à obéir à la parole de Dieu, la parole qu'il lui a donnée au mont Sinaï. Israël n'avait qu'à obéir à toute cette loi pour demeurer dans l'alliance et par conséquent continuer à jouir de cette dignité, de ce statut, de cet état unique et singulier d'être le sanctuaire du Dieu vivant ici sur terre. Alors la question que nous pourrions nous poser est celle de savoir comment sont-ils devenus sanctuaires de Dieu ainsi que son domaine. Qu'est-ce qui leur a procuré ce statut tout spécial qui leur garantissait la victoire? Qu'est-ce qui a fait qu'ils le deviennent? Voyez-vous? Eh bien, cette question, c'est le prophète Ésaïe qui a la réponse. Dans Ésaïe 63, nous n'avons pas le temps de tout lire. Le verset 7 à 19, le prophète rappelle dans cette portion des Écritures les bienfaits de Dieu envers son peuple. Mais en même temps, le prophète, eh bien, nous donne une révélation concernant la marche d'Israël vers la terre promise, concernant la manière et pourquoi toutes ces choses-là, bénéfiques, merveilleuses, sont arrivées à Israël. Eh bien, la révélation, c'est quoi dans ce passage? Eh bien, la révélation, c'est que, nous dit le prophète Ésaïe, Dieu avait mis son esprit, le Saint-Esprit, parmi son peuple. Le verset 11, alléluia. Donc c'est une révélation que nous recevons plus tard. Voyez-vous? Ésaïe, poussé par le Saint-Esprit, va finalement révéler à son peuple qu'en réalité, la colonne de nuée qui le conduisait la journée, la colonne de feu qui le conduisait la nuit, alors qu'ils avaient quitté l'Égypte, était en réalité la manifestation visible de l'Esprit de Dieu, l'Esprit qu'il avait mis parmi eux. C'est donc la présence du Saint-Esprit parmi eux qui a fait que ce peuple devienne le sanctuaire. Alléluia. Le Saint-Esprit parmi son peuple pour le mener au repos, verset 14. C'est donc le Saint-Esprit qui le conduisait pour qu'ils arrivent jusqu'en terre promise et qu'ils jouissent enfin de l'accomplissement total et entier de la promesse que le Seigneur leur avait faite. D'ailleurs, le prophète nous dit qu'à chaque fois que le peuple se rebellait contre Dieu, en réalité, il se rebellait contre le Saint-Esprit, c'est le verset 10. Et le mot utilisé ici, c'est qu'ils attristaient le Saint-Esprit. Et en attristant le Saint-Esprit, eh bien, celui-ci se mettait à le combattre. Voilà pourquoi ce peuple, tout en étant devenu sanctuaire de Dieu, n'a pas connu que la victoire. Ce peuple a eu à connaître des moments de défaite, des moments où, eh bien, ils ont été terrassés par leurs ennemis, des moments où ils ont eu affaire à toutes sortes d'obstacles qu'ils n'ont pas pu surmonter. Parce que, nous dit Ésaïe, ils ont attristé le Saint-Esprit, l'Esprit de l'Éternel. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, comment sont-ils devenus sanctuaires? Eh bien, nous venons de le voir par la bouche du prophète Ésaïe, c'est la présence du Saint-Esprit parmi eux qui a fait toute la différence. C'est la présence du Saint-Esprit au milieu d'eux, mes amis, qui a fait que ce peuple devienne le sanctuaire du Dieu vivant. C'est la présence du Saint-Esprit qui les conduisait, qui a fait qu'ils deviennent le domaine du Dieu vivant. Ayant été scellés par le Saint-Esprit, ils portaient désormais le sceau de Dieu sur eux. Alléluia. Amen. Nous verrons ça tout au long de la semaine, puisque vous le savez, nous aurons notre séminaire sur la communion du Saint-Esprit, option ou nécessité. Et le message d'aujourd'hui n'est qu'un avant-goût de ce que nous allons voir tout au long de la semaine. Alléluia. Gloire au Seigneur. En étant le sanctuaire de Dieu, eh bien, c'est-à-dire, ayant le Saint-Esprit parmi eux et avec eux, la Bible nous dit, alors, le Saint-Esprit combattait pour eux. D'ailleurs, le même Ésaïe, au chapitre 59, il le dit, « Quand l'adversaire viendra comme un fleuve, l'Esprit du Seigneur le mettra en... » Oh, gloire à Dieu! C'est donc le Saint-Esprit qui était à l'œuvre. C'est donc le Saint-Esprit qui combattait pour eux. Ça veut dire, et vous comprenez pourquoi, lorsqu'ils ont été, ils ont eu affaire à Amalek, eh bien, Moïse est monté sur la colline avec Our, avec Aaron, pour pouvoir prier, pour pouvoir intercéder. Et à chaque fois que Moïse présentait son intercession devant Dieu, quelque chose s'est passé dans la vallée, parce que il permettait au Saint-Esprit de combattre à leur côté, alléluia, et de le conduire tout droit vers la victoire. En d'autres mots, la marée montante et descendante du combat dans la vallée ne dépendait pas de la stratégie militaire de Josué, ne dépendait pas de la présence de conseillers militaires ayant été formés dans les meilleures académies militaires d'Égypte. Non! La marée montante et descendante dépendait de ce qui se passait sur la colline. Plus on permettait le Saint-Esprit dans l'intercession d'agir, plus Josué allait de victoire en victoire. Oh, mes amis, tout le secret, tout ce qui fait qu'Israël connaisse autant de miracles, autant de prodiges en aval, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose en amont. C'est parce que le Saint-Esprit était à leur côté. Le Saint-Esprit était parmi eux. Le Saint-Esprit combattait pour eux. Et plus tard, Zacharie dira la même chose. Ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par la force, mais bien par l'Esprit du Seigneur. Alléluia. C'est donc le Saint-Esprit aux côtés d'Israël qui a fait toute la différence. Ils sont devenus sanctuaires. Résultat, la mer a reculé, le Jourdain a reculé, les montagnes ont tremblé, les collines ont tremblé, mes amis. Rien ne pouvait tenir parce que le Saint-Esprit marchait devant eux. Il écrasait tout sur son passage. Qu'en est-il de nous? Qu'en est-il de nous, mes amis? Eh bien, Dieu n'a pas changé. J'avais l'habitude d'entendre à l'époque, au début de ma conversion, les aînés, mes aînés dans la foi parlaient du Dieu de l'Ancien Testament et du Dieu du Nouveau Testament. Ils faisaient une sorte de dichotomie dans la divinité. Oui, le Dieu de l'Ancien Testament, c'était un Dieu de colère, un Dieu qui n'hésitait pas, qui se comportait comme un gendarme ou un policier, toujours prêt à verbaliser, toujours prêt à intervenir. Petit, attention. Mais c'est le même Dieu. Hein? Alléluia. Oh, le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le Dieu de la loi, le Dieu du Nouveau Testament, c'est le Dieu de la grâce. Même dans l'Ancien Testament, Israël a été délivré d'Égypte par grâce. Il n'y a rien qu'Israël a fait qui ait amené Dieu ou forcé Dieu à intervenir. Il a vu, il a agi. Alléluia. D'ailleurs, la loi est venue plus tard, oui ou non? Ils ont d'abord été délivrés de l'oppression. Ils ont été délivrés de l'esclavage. C'est plus tard, au mont Sinaï, que Dieu va leur donner le décalogue, les 10 paroles. J'aime cette traduction, 10 paroles, plutôt que 10 commandements. Parce que vous savez, les commandements, c'est, on pense toujours au juge. Tu dois. Voyez? C'est 10 instructions, 10 paroles. Et effectivement, il a prononcé 10 paroles. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Oui ou non? Tu n'invoqueras pas un autre Dieu que moi. Tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain. Tu ne tueras pas. Tu ne commettras pas adultère, etc. 10 paroles. Eh bien, à la création, il a aussi prononcé 10 paroles. Vous savez ça? Si vous calculez le nombre des paroles que le Seigneur a créées, a prononcées pour appeler ce qui n'existe pas à l'existence, il a proclamé 10 paroles. Et quand nous arrivons ici, il proclame encore 10 paroles pour le salut de l'homme. Alléluia! Gloire au Seigneur! Qu'en est-il de nous? Eh bien, l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 3, vous connaissez ce passage, 16 à 17 nous le dit, « Ne savez-vous pas, ne comprenez-vous pas, ne reconnaissez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite? » Oh, il est plus qu'au milieu de nous, il habite en nous. Et par conséquent, nous sommes devenus l'habitation de Dieu. En esprit, alléluia. Nous sommes devenus le sanctuaire de Dieu. Nous sommes le lieu très saint de Dieu ici sur terre. Où que vous soyez en hémisphère nord, sous les tropiques ou ailleurs, dès lors que le Saint-Esprit est en vous, de par la présence du Seigneur, mon ami, mon frère, ma sœur, tu es devenu le sanctuaire de Dieu, Dieu est avec toi. Et même là, au nord, tu peux expérimenter la victoire. Et même là, au sud, tu peux l'expérimenter. Où que tu sois en Goma, la perle de l'Est. Ah, il n'y a pas de gens de Goma qui disent « Alléluia ». Que vous soyez en Bandaka et Kangangenge, vous pouvez expérimenter la victoire. Que vous soyez à Kindu, le lys du Maniema. Ah, personne ne dit « Amen ». Il y a moyen d'expérimenter la victoire. Que vous soyez à Lubumbashi ou en Tansh. Joaquin, qui est la belle. Alors là, nous devrions tous amen. Voyez-vous, mes amis, ça ne dépend plus de lieu. Où que nous soyons, si le Saint-Esprit est en nous, nous sommes le sanctuaire de Dieu. Et par conséquent, nous pouvons expérimenter ce qu'Israël a expérimenté en aval. Nous pouvons accomplir des miracles. Nous pouvons aller de victoire en victoire. Car Dieu n'est pas lié par un lieu, ni par le temps. Il transcende l'espace. Il transcende le temps. Où que nous soyons, dès lors que nous sommes attachés à lui, dès lors que nous sommes son sanctuaire, eh bien, la mer va trembler. Le Jourdain va reculer. Les montagnes vont bondir. Comme des béliers, les collines, comme des agneaux. C'est la chose la plus merveilleuse que Dieu jamais accompli ici-bas, en dehors de la création. C'est un mystère qui a été révélé plus tard. Christ en nous. Alléluia. Christ en nous. Sommes-nous conscients, mes amis? Ce n'est pas un ange qui habite en nous. Ce n'est pas un archange qui habite en nous. Ce n'est pas un chérubin qui habite en nous. Mais c'est bien le roi des rois. C'est bien le Seigneur des seigneurs. C'est bien le Créateur des cieux et de la terre qui, malgré, en dépit de son omnipotence, de son omniprésence, a quand même choisi de venir habiter en nous. Alléluia. Il est vrai que Dieu est omniprésent. Il est partout. Mais la Bible ne dit pas que Dieu vit partout. Vous voyez la nuance? Il vit dans le cœur de ceux qui ont reçu Jésus. Ceux-là sont devenus son sanctuaire. Ceux-là sont devenus son temple vivant. Donc, puisque nous sommes devenus le temple de Dieu, le sanctuaire de Dieu, puisque désormais Dieu a placé son sceau sur nous, nous sommes devenus par conséquent sa propriété, alors mes amis, il y a un boulevard devant nous, alléluia, pour nous permettre d'aller de victoire en victoire. Quels que soient les obstacles devant nous, quelle que soit la taille de la montagne, quelle que soit l'intensité et la vitesse des tempêtes qui soufflent, tant que nous serons et tant que nous sommes le sanctuaire du Dieu vivant, eh bien, nous irons de victoire en victoire, alléluia. Nous triompherons de nos adversaires. Il y a moyen, c'est une certitude absolue. Si vous êtes sanctuaire, si véritablement le Saint-Esprit vit en vous, alors, mon frère, ma sœur, vous n'avez aucune raison de tourner de regards inquiets. Vous n'avez aucune raison de vouloir reculer. Non, ce n'est pas en reculant que vous résoudrez quoi que ce soit. Pas du tout, mes amis, au contraire. Vous êtes condamnés à avancer, car celui qui marche devant vous, là, est le Tout-Puissant. Avant même que vous n'arriviez, eh bien, il aura déjà déplacé la montagne. Alors que rien ne nous arrête. C'est ainsi que Paul qui a reçu la révélation, cette révélation, qu'en Christ, nous sommes devenus le sanctuaire du Dieu vivant. Nous sommes devenus le domaine, la propriété absolue de Dieu. Il écrit ceci, écrivant aux Éphésiens. J'en ai déjà eu à parler un tout petit peu. Éphèse, c'était une ville plongée dans les ténèbres morales et spirituelles incroyables. Il y avait des cultes à toutes sortes de divinités, gréco-latines, on adorait de tout. Mais lorsque l'évangile est arrivé à Éphèse, beaucoup d'hommes et des femmes ont été gagnés à Christ, alléluia. Écoutez ce qu'il leur dit, Éphésiens 3:20. Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment.
Excusez-moi, c'est une gorgée d'eau.
Peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons et pensons. À celui qui par la puissance qui agit en nous. Mes amis, la victoire est en nous, non pas en dehors de nous. N'allez pas la chercher quelque part. Oh non, il faut aller absolument l'imiter, je ne sais sur quelle rue. Là, on fait vomir les gens. Non, la victoire, si tu es le sanctuaire de Dieu, est en toi. Nous allons seulement voir pourquoi tu ne l'expérimentes pas. À celui qui, par la puissance qui agit où? À côté de nous? Où? Gloire au Seigneur. La puissance qui agit en? Quelle est cette puissance? Ou mieux, qui est cette puissance? Alléluia! L'Esprit de Dieu, mes amis, le même Esprit qui a accompagné Israël, c'est le même Esprit qui est venu habiter en nous. Et par conséquent, cet Esprit agit puissamment. La victoire après laquelle, chers frères et sœurs, nous soupirons et aspirons, est en nous. Elle ne doit pas être, elle ne doit pas faire l'objet d'une recherche ailleurs. En disant, oui, mais il faut que j'aille absolument, absolument à Ariwara, là je serai béni. Il y a un prophète là-bas, vous dépensez votre argent pour rien. Si le Saint-Esprit est constamment attristé en vous, ce n'est pas en allant en Corée, ce n'est pas en allant aux États-Unis, ce n'est pas en allant je ne sais où que quelque chose se passerait. Car il n'y a rien qui changerait. Que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez ici, que vous soyez à Kinshasa ou que vous soyez à Bandundu, eh bien, si en vous, celui qui est appelé à agir par sa puissance n'est pas du tout content de ta vie, tu as beau aller de bishop en trichop, d'apôtre en prophète, de prophète en souverain sacrificateur, tu as beau t'exposer je ne sais à quel ange, eh bien, tu ne trouveras jamais la victoire jusqu'à ce que tu comprennes que le problème se trouve en toi. C'est là que tu dois mettre de l'ordre. C'est avec le Saint-Esprit que tu dois te mettre en accord. Alléluia. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit. Alors comment? Comment cette victoire qui est en nous? Parce que le Saint-Esprit est en nous si nous avons reçu le Seigneur. Je suis clair là-dessus. Il n'est pas en nous parce que nous avons été dans un séminaire, dans un couvent, parce que nous avons été dans une école biblique. Il n'est pas en nous parce qu'on nous a plongé dans une piscine en nous baptisant au nom de Jésus. Non! Il est en nous parce qu'un jour nous nous sommes repentis. Il est en nous parce qu'un jour nous avons demandé à Jésus de venir en nous. Depuis, notre corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Alors, comment se fait-il que cette victoire qui est en nous ne se manifeste pas dehors? Nous ne voyons pas, si vous voulez, le résultat de cette victoire qui est en nous. À chaque fois que nous sommes confrontés à un problème, eh bien, nous n'avons pas suffisamment de force pour solutionner le problème. Nous nous recroquevillons, nous reculons, nous abandonnons, nous baissons les bras, etc. Voyez-vous? Comment expliquer que beaucoup d'entre nous, tout en étant le sanctuaire du Dieu vivant, eh bien, n'expérimentent pas cette victoire? Eh bien, la réponse à ces deux questions se trouve dans deux passages des Écritures. Et toujours sous la plume de notre apôtre bien-aimé, c'est-à-dire l'apôtre Paul. Dans 1 Corinthiens 3, verset 17, la deuxième partie, il nous dit, « Car le temple de Dieu est saint. » Ah! Si nous sommes le sanctuaire de Dieu, nous devons alors savoir que nous sommes appelés à être véritablement saints. Car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Voilà la première chose. La deuxième chose, cette fois-ci Paul écrivant aux Éphésiens 4:30, il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Voilà où se situe le problème. N'attristez pas le Saint-Esprit. Si nous voulons expérimenter des victoires en étant le sanctuaire du Dieu vivant, eh bien nous ne devons pas attrister le Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire attrister? Attrister quelqu'un, c'est le rendre triste. Et la tristesse, c'est le contraire de quoi? Évidemment. Il y a tristesse parce que quelque part, il y a eu désobéissance. Parce que quelque part, on n'a pas fait ce que l'autre voulait qu'on fasse. Oui ou non? Une maman est triste envers sa fille parce qu'elle n'a pas fait ce qu'elle lui a demandé. Voyez-vous? Eh bien, le Saint-Esprit étant en nous, nous devrions en être conscients et tout faire, mes amis, pour que notre vie, pour que les actes que nous posons, pour que les attitudes que nous avons, pour que les paroles qui sortent de nos bouches, pour que l'état de notre cœur ne puisse pas être, eh bien, une source ou une occasion pour le Saint-Esprit d'être attristé par nous. Oui, il est possible de l'attrister. Le Saint-Esprit est une personne. Ce n'est pas une force impersonnelle. Voyez-vous? Non. Le Saint-Esprit parle, le Saint-Esprit convainc de péché. Le Saint-Esprit peut être attristé. Donc ça veut dire, il a une personnalité, n'est-ce pas? Alors, comment peut-on l'attrister? Eh bien, dans Éphésiens 4, le verset 30 là, se trouve au milieu d'un passage très significatif, dans lequel Paul énumère le mal que nous devons éviter. Et en l'évitant, eh bien, nous n'attristerons pas le Saint-Esprit. Il mentionne des péchés dans une longue liste, et je vous demanderai de lire le chapitre 4 des Éphésiens, aller jusqu'à Éphésiens 6, pour voir le mal que nous devons laisser, mais aussi le bien que nous devons faire. Alors, puisqu'il est question d'attrister le Saint-Esprit, qu'est-ce qui l'attriste? Ah ben, le mal, le péché, en un mot. Et l'apôtre Paul l'énumère. Il parle de mensonge. Le mensonge, mon frère, ma sœur, le Saint-Esprit est l'esprit de vérité. Tu dois savoir qu'à chaque fois tu mens. À chaque fois que tu fais preuve d'hypocrisie, tu es l'attriste. Voyez, il y en a qui disent, ah oui, mais quelquefois il faut mentir pour s'en sortir. Non? Alors dans ces cas, tu es en train de sous-estimer la capacité de Dieu de te faire sortir de cette situation sans que tu passes ou sans qu'il faille mentir. Ah oui, mais de temps à autre, le mensonge salvifique, je ne sais pas comment on appelle ça. Il n'y a pas de mensonge qui sauve. Le mensonge reste mensonge. Même si pour un temps, ça te donne l'impression que tu as trouvé la solution, tôt ou tard, il te rattrapera. Tôt ou tard, tu le payeras. Et le premier prix que tu payes, c'est que l'esprit en toi est attristé. Et lorsqu'il est attristé, mon frère, ma sœur, comment veux-tu qu'il te donne la victoire? Comment veux-tu qu'il se sente à l'aise dans ta vie pour pouvoir interagir avec toi et puis t'amener de victoire en victoire? Le mensonge, la colère, le vol, eh oui, le vol, sous toutes ses formes. Oh, qui travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel. C'est fou. Ah oui, mais mon patron, il a beaucoup d'argent, de temps à autre, je prends ça, quelques œufs au frigo, quelques poulets au congélateur, mais il ne se rend pas compte. Mais ce n'est pas parce qu'il ne se rend pas compte que ce que tu fais là est justifiable. Si lui ne se rend pas compte, parce qu'il a beaucoup à faire, il y en a un. Il y en a un qui regarde tout. Le vol. Vous savez qu'on est venu voler ici. La personne qui a volé On est venu forcer, là je ne comprends pas, on a des surveillants. Si on a volé, ça veut dire quoi?
De deux choses l'une.
Le linge sale se lave en famille.
De deux choses l'une. Où ils dormaient tous? Un voleur, un intrus est venu.
Il a forcé le petit bureau dans le fond pour emporter un dictionnaire biblique. Donc il doit en connaître la valeur.
Oui, oui ou non? Ou alors, il ne dormait pas?
Dans ce cas, c'est qui? Mais c'est une déduction logique.
Vous volez, vous devez savoir que cela est une attitude qui attriste le Saint-Esprit. Peu importe que ce soit l'État, que ce soit le patron, le vol reste vol, et cela, eh bien, mon frère, ma sœur, ça attriste le Saint-Esprit. Et comment veux-tu qu'il t'accorde la victoire? La paresse! Ah oui, la paresse. Dieu n'est pas pour la paresse. Dans les prochains sermons, on en parlera. Vous savez, il y a une sorte de... Il y a une aide qu'on peut recevoir qui n'est pas bonne. Et il y a une souffrance qui est bonne parce qu'elle nous a guéris. La paresse. Vous ne voulez pas travailler parce que vous avez un oncle qui travaille aux finances. Vous ne voulez pas travailler parce que vous avez 3-4 médecins en famille. Mes amis, le travail est une valeur du royaume. Avant de donner une femme à Adam, Dieu lui avait donné du travail. Le travail est un sacerdoce. Alléluia. C'est pourquoi si vous n'en avez pas, priez Dieu pour que vous en créiez. Et je bénis Dieu pour toutes ces initiatives qui se développent un peu partout à travers notre pays. Pour susciter cet esprit d'entrepreneuriat, on a vécu longtemps en s'appuyant sur la fonction publique, sur les entreprises publiques, et puis un jour elles ont fait faillite, et on a vu des gens se lever, créer des fermes, oui ou non. Alléluia. Les gens se lançaient dans des affaires, oui. C'est pourquoi ces histoires de vouloir construire notre pays uniquement recevant de dons de l'étranger n'est pas bon. Nous devons apprendre à suer, à donner le peu que nous avons pour construire notre pays. Gloire à Dieu. On peut recevoir des dons, gloire au Seigneur, mais cela ne devrait pas nous dispenser de la nécessité de travailler nous-mêmes. Et puis quand nous passons, nous disons, tiens, ceci a été construit grâce à nos impôts, alors payez-le. Ah, personne ne dit amen. Vous pensez que les pays occidentaux ont été aidés par les anges dans ce qu'ils sont devenus? Hein? Mais non. Les gens payent. Ils aiment leur pays. Nous devons travailler le patriotisme. Voyez? Tout commence ici. La paresse. Tu te réveilles, tu dors à 1h du matin. Tu te réveilles à 13h. Et tu sors en training là, devant la rue Petit Yaka. Lukelanga Shimbok. Et tu attends, à 16h, tu vas rendre visite aux parents. Mais tu as 25 ans. Maman, qu'est-ce que tu as fait? Bon, la pauvre, tu es son fils. Hein? Mais non, nous devons nous battre, c'est vrai. Il y a des moments où nous devons rester en famille, parce que nous n'avons pas suffisamment de choses. Mais que ça ne soit pas une règle. Voyez-vous, nous devons apprendre à nous battre. Il y a de la joie, mes amis, à bâtir soi-même sa maison. Alléluia. Demandez aux mamans, quand elles préparent là, tout ce qu'elles préparent pour elles, c'est tout ce qu'il y a de mieux. Vous pouvez, il y a un peu, beaucoup de sel. Mais elles disent, non, mais c'est très bien. Parce qu'elle a fait avec joie. Et quand on regarde ce qu'on a fait, mes amis, on est pleinement heureux. La paresse, l'amertume, l'animosité,
la calomnie, on parle du mal des autres.
Voyez-vous,
il a fait ceci. Et quelquefois, nous, enfants de Dieu, nous prenons pour argent, pour parole d'évangile, tout ce que nous entendons, même dans le média. Mais dis, ayez l'esprit critique. Nous étions avec le frère ici, il y a 2 jours, je suis allé faire des courses, un de nos pasteurs avec le chauffeur. On arrive au feu, il y a tous ces jeunes gens qui vendent le journaux. Alors il y en a un qui arrive, comment il m'appelait encore, chef, je ne sais pas quoi. Et, alors il me présente un journal, c'est parce que le frère est là, alors je ris. Il dit, voilà ceux qui vont faire partie du prochain gouvernement. D'abord, c'est une copie. Et puis la deuxième, il insiste. Alors je fais baisser la vitre. Il dit, chef, comprenez-vous en quatre. Il est là. Alors je ne sais pas si je serai dedans. Nous étions avec le fait, il est là. Chef, comprenez-vous en son bagage. Alors je lui ai dit, mais mon frère, moi je ne suis pas en politique, moi je suis un pasteur. Ah, viens. Alors j'ai compris. J'ai demandé, je lui ai quand même donné 200 francs, comme je n'avais pas grand-chose. Il dit, zoa kaka. Vous voyez, c'est ça. Au sein de la vieux. Chef. On était avec Delphin. L'impudicité, la cupidité, les mauvaises pensées qui vous traversent, eh bien, attristent le Saint-Esprit. Quand vous asseyez, vous réfléchissez, vous laissez les pensées de vol, d'arnaque, vous regardez comment vais-je escroquer les... Non, eh bien ça, ça triste le Saint-Esprit. Quand vous voyez une femme, eh bien vous commencez à avaler la salive. Mais le Saint-Esprit voit. Nous devons faire attention. L'ivrognerie. Bref, tout le péché, voilà ce qui attriste le Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit est attristé, tout en étant sanctuaire de Dieu, nous ne pourrions pas expérimenter la victoire. Alors, mon frère, ma sœur, nous revenons à la conclusion du dimanche dernier. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est notre sanctification. Il n'y a pas d'autre recette. C'est en vivant dans la sanctification que nous allons permettre au Saint-Esprit de nous accorder des victoires. Car ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par un concours de circonstances, quel qu'il soit, mais plutôt par le Saint-Esprit. Alors faisons tout pour que le Saint-Esprit soit à l'aise. Et lorsqu'on l'a attristé, commençons par demander pardon. Alléluia. Mon frère, ma sœur, il y a moyen d'expérimenter la victoire en étant sanctuaire de Dieu et en veillant à ce que ce corps reste saint, puisque le temple de Dieu est saint. Alors rejetons le mal et faisons le bien. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Gloire à Dieu. N'attristez pas le Saint-Esprit. Voilà, mes amis, ce que Dieu attend de chacun de nous. Et comme je l'ai dit, ce message n'est qu'un avant-goût de ce que nous allons voir tout au long de la semaine, quand nous allons parler de la communion avec le Saint-Esprit. Mon frère, ma sœur, où en es-tu dans ta vie? Comment tu vis? Le mensonge a-t-il encore sa place en toi, la tromperie? Ta vie morale est-elle une vie qui glorifie le Seigneur? Quel type de pensée traverse constamment ton esprit? De pensée, de haine? Ta langue communique-t-elle la vie ou alors la calomnie? Si tel est le cas, demande pardon au Seigneur. Et nous allons prier. Si tel est le cas, demandons pardon au Seigneur. Et nous allons prier. Alléluia. Commence déjà à invoquer le nom du Seigneur en demandant pardon. Car il veut te pardonner. Alléluia. Oh, merci Jésus. Oh, alléluia. Si quelqu'un aimerait se lever pour que nous puissions le soutenir dans la prière, que Dieu lui accorde véritablement le pardon, et qu'après que le Saint-Esprit se mette à l'utiliser, eh bien, il peut se lever. Que vous soyez debout ou assis,
L'essentiel, c'est de demeurer dans cette attitude de prière. Merci pour les personnes qui se lèvent.
On n'attristait pas le Saint-Esprit de Dieu.
Et par conséquent, demeurer dans la sainteté, posséder ce corps, loin de l'immoralité, loin de l'impudicité, loin des pensées impures, loin de la calomnie, loin de la méchanceté, quelle qu'elle soit.
Oh Dieu, nous tenons devant toi avec ces personnes qui se sont levées parce qu'elles ont réalisé, Seigneur, que dans leur vie, elles attristent constamment ton esprit. Donne-leur ton pardon, Seigneur. Tu ne te lasses point de pardonner. Et donne-leur ce pardon. Et ensuite, aide-les désormais à vivre de manière à ce qu'ils n'attristent pas le Saint-Esprit par leur manière de vivre, par les paroles qui sortiront de leur bouche, par la nature des pensées qui les visiteront. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur de nous aider tous, oh Dieu, à vivre de manière à ce que toi tu sois à l'aise par ton esprit dans chacun de nous. Seigneur, merci. Merci aussi de poser ta main sur ces offrandes, sur cette façon que tu nous donnes de pouvoir soutenir, Seigneur, ton œuvre. Oh, bénis tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, te manifestent leur générosité en donnant leur offrande, en donnant leur dîme, en soutenant, Seigneur, ce que tu fais à la borne d'une manière ou d'une autre, que tu leur accordes ta bénédiction centuple. Merci, Seigneur, que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus, amen. Amen.
Acclamons encore la parole du Seigneur ce matin. Alléluia. Merci, Jésus. Merci. À présent, pendant que les paniers aux offrandes circulent, nous voulons accueillir tous nos amis qui sont venus pour la toute première fois ici à notre église de la Borne. Si vous êtes là, veuillez vous manifester et nous allons vous accueillir dans le nom de Jésus. Là où vous êtes levé, tout simplement votre main, nous voulons vous recevoir.
Alléluia.
Oui, acclamons le Seigneur. Il y a les bien-aimés là-bas au fond. Merci, nous vous recevons dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Les services d'accueil, vous remet un dépliant dans lequel vous allez trouver tous les renseignements. Hein, sur lequel vous allez remplir et glisser le formulaire dans le panier aux offrandes. Que Dieu vous bénisse, soyez les bienvenus. Feu du fondeur, je n'ai qu'un désir, être saint, être saint. Amen. Prends-moi aussi pur. Seigneur, je mérite que ma vie soit un sanctuaire pour toi. Alléluia.
Caché, du monde, du monde.
Alors voilà, nous arrivons donc à la fin et nous aimerions vous demander de vous lever. Et nous allons terminer par la prière, nous recommander à la grâce du Père, lui demander de bénir toute cette semaine, que ce soit une semaine de victoire, une semaine où nous allons vivre la réalité d'être le sanctuaire de Dieu, en vivant de manière à ne pas attrister le Saint-Esprit. Notre Père et notre Dieu, nous voici au terme de notre culte de ce dimanche matin, dans son premier service. Tu as été avec nous, tu nous as fait du bien par, Seigneur, le moment de louange, le moment d'adoration. Tu nous as fait du bien par ta parole. Quel bonheur de savoir que nous sommes ton temple ici-bas. Nous sommes, Seigneur, le lieu très saint du Dieu vivant sur cette terre. Et par conséquent, Seigneur, aide-nous à vivre, à marcher, de manière à ne pas attrister ton esprit. Car c'est en marchant dans la sainteté, en possédant ce corps dans la sanctification, que nous laisserons le Saint-Esprit à l'aise et que nous lui donnerons l'occasion de pouvoir nous conduire de victoire en victoire, d'accomplir des merveilles en nous, d'accomplir des merveilles autour de nous. Ô Dieu, aide-nous. Merci Seigneur. Merci pour tout. Tu bénis la semaine. Tu bénis notre séminaire. Tu nous gardes en bonne santé. Tu nous ramènes ici pour le séminaire. Et tu traverses cette semaine avec nous, Seigneur, en nous révélant, ô Dieu, tout ce qui est fondamental quant à notre communion avec ton esprit. Merci Seigneur. Merci pour tout. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit restent et demeurent sur chacun de nous. Allons dans sa paix et demeurons dans sa victoire jusqu'à ce qu'il revienne. Merci Seigneur. Amen. Excellente semaine, que le Seigneur vous bénisse. Au plaisir de vous revoir tout au long du séminaire.
Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi. Alléluia. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi.
voyons.
Quand ils voyons, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes dans ta présence, nos craintes fuient.
Quand ils voyons,
quand ils voyons.